Chapitre 3. La mystérieuse jeune fille. Raoul a beaucoup pensé aux événements. Il veut parler à Aurélie Léonide, la mystérieuse demoiselle aux yeux verts. Elle se cache dans un pensionnat dans les Pyrénées. Pourquoi aller dans ce lieu perdu au milieu des montagnes? Le pensionnat est en hauteur, la vue sur la vallée est magnifique, mais en avril, il y a un peu de neige sur les sommets et il fait encore froid. La jeune fille sort pourtant chaque jour. Chaque après-midi, elle se promène. Elle prend un chemin qui monte jusqu'à une petite terrasse en pierre. Ce n'est pas loin du pensionnat. Elle monte en quelques minutes. Là, elle s'assoit sur un banc. Elle reste assise de longues minutes, le regard perdu. Elle admire la vue sur la vallée, les grands arbres verts. Elle écoute le chant des oiseaux. De l'autre côté, un chemin plus étroit descend jusqu'à un petit lac. L'eau est encore très froide au printemps. Quand Aurélie Léonide n'admire pas la vue, elle se promène. De la terrasse, elle descend près du lac, en passant au milieu des arbres, et elle cueille les fleurs de printemps pour faire des bouquets de fleurs jaunes, blanches et violettes. Chaque jour, elle retourne au pensionnat avec des bouquets colorés. Le visage souriant, elle semble heureuse, comme le premier jour, ce premier jour où Raoul l'a aperçue dans la pâtisserie avec les enfants. Il se demande encore comment une jeune fille si charmante, si douce, si joyeuse, a-t-elle pu commettre un meurtre? Comment a-t-elle pu se transformer en criminelle le temps d'une nuit? Comment peut-elle être l'amante d'un criminel? A-t-elle tué par jalousie? Si c'était le cas, comment pourrait-elle être ici et sembler si calme? Raoul se pose beaucoup de questions, mais il ne trouve pas vraiment de réponse. Il faut qu'il lui parle sans lui faire peur. Il doit lui parler le plus vite possible, car Marescal va probablement bientôt la retrouver. Il veut parler à Aurélie Léonide, mais il reste caché. Et c'est elle qui vient vers lui. « Arrêtez de vous cacher !» lui dit-elle. « C'est ridicule! Je sais bien que vous êtes là depuis 5 jours. Mais attention, au pensionnat, on ne doit pas savoir que vous êtes là. » « Je ne veux pas être impoli. Je ne veux pas non plus vous déranger. Vous avez l'air si calme ici. » « Que voulez-vous? Pourquoi me suivez-vous partout? Je suis très bien toute seule. Ici, je ne suis pas en danger. » « Le commissaire Marescal va vous trouver et il va vous arrêter. » « Non, j'expliquerai la situation au juge, il m'écoutera. » « Ce sera votre parole contre la parole du commissaire. » « Le juge ne vous croira pas. Marescal veut se venger. Sa vengeance, ce sera la peine de mort. »« Si vous me racontez tout, je vous aiderai. Faites-moi confiance. Racontez-moi calmement votre histoire. » Assis au milieu des feuillages pour ne pas être vu, Raoul, alias Arsène Lupin, écoute Aurélie Léonide. Ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Lui est derrière le banc, elle est assise sur le banc. « Je m'appelle Aurélie, Aurélie d'Asteux. Je vais avoir 21 ans en juin. J'ai grandi ici pendant plusieurs années dans ce pensionnat. Je me suis installée ici quand ma mère est tombée malade, peu avant sa mort. Pourquoi n'êtes-vous pas resté chez votre père à Paris? L'homme à la canne que j'ai vu devant la pâtisserie est bien votre père, n'est-ce pas?
Non, c'est mon beau-père. Il s'appelle Bréjac. Il est directeur des affaires judiciaires au ministère de l'Intérieur. Mon père est mort quand j'étais toute petite. J'avais 2 ans. Ma mère a été très malheureuse, mais elle a fini par se remarier. Et puis ma mère est tombée malade en 1898. J'avais 12 ans. J'ai voulu partir chez mon grand-père, le père de ma mère. Il m'aimait beaucoup, mais il était très occupé. Ma mère, Bréjac, et mon grand-père ont décidé que je serais bien dans ce pensionnat dans les montagnes des Pyrénées. Avant sa mort, ma mère m'a dit que mon grand-père avait un secret. Et puis, elle est morte. Aurélie s'arrête. Elle est très triste. Ses yeux sont rouges, une larme coule sur sa joue, puis 2, puis 3. Elle pleure. Alors Raoul s'approche pour la prendre dans ses bras. Il aimerait la consoler. Vous pourrez me raconter la suite demain, si vous préférez, lui dit Raoul.
Non, je vais continuer.
Après la mort de ma mère, Bréjac s'est occupé de moi. Je suis retourné à Paris pour me marier. C'était l'idée de Bréjac. Moi, je ne voulais pas. Chez Bréjac, j'ai rencontré Guillaume et Marescal. Guillaume était gentil. Marescal, lui, a voulu que je me marie avec lui, mais Bréjac préférait que je me marie avec Guillaume. Alors Bréjac et Marescal se sont disputés.
Et votre grand-père ? Parlez-moi de votre grand-père.
Un jour, nous avons appris que mon grand-père rentrait du Brésil. Il m'attendait chez lui. Guillaume a proposé de m'accompagner. Cela m'a semblé naturel, j'ai accepté. En fait, je ne connaissais pas Guillaume. Pas vraiment, pas tel qu'il est. Guillaume est un monstre. Il m'a dit qu'il m'aimait, mais il voulait connaître le secret de mon grand-père. Mon grand-père a eu un accident de voiture. Il est mort, lui aussi.
Oh, c'est tragique.
Il a laissé une bouteille pour moi et une lettre que je dois lire le jour de mes 21 ans, en juin. C'est Guillaume qui a gardé la bouteille.
Une fois de plus, une grande tristesse apparaît sur le visage d'Aurélie. Elle reste sans voix un moment et dit
« Continuons. »
« Que s'est-il passé dans le train ? Prenez votre temps, je comprends. » C'est très pénible de raconter ces événements.
Aurélie veut continuer son histoire. Dans le train, nous étions installés voiture 4. La nuit, Guillaume m'a réveillé pour me présenter une amie. Il n'avait pas l'air dans son état normal. Il était très nerveux. Il m'a obligé à porter un masque, un grand manteau et un chapeau. Je ne voulais pas. Il m'a alors menacé avec une arme à feu. Cette amie était dans la voiture d'à côté. Nous avons donc changé de voiture. Il a dit « C'est à toi de travailler maintenant !» Cet homme est fou. Moi, je n'ai pas compris. La jeune femme, je l'ai reconnue. Elle était dans la pâtisserie, à Paris.
Prenez votre temps. Il a voulu vous obliger à la tuer avec son arme.
Oui.
Et vous avez refusé.
Bien sûr. Vous m'imaginez vraiment tuer quelqu'un ?
Non. Non, mais...
La jeune femme était très en colère. Elle m'a reconnu malgré mon masque. Ils ont commencé à se battre et moi j'ai ouvert la porte du train pour sauter.
Pour sauter ?
Oui, comprenez-moi. Seul avec ces deux assassins. Elle voulait me tuer maintenant. Lui, il voulait la tuer maintenant et me tuer après. Le train n'allait pas très vite. Je n'ai pas trop réfléchi. Je pensais peut-être me casser une jambe. Je suis agile.
Raoul se souvient qu'il dormait dans le compartiment d'à côté, qu'il est arrivé trop tard.
Mais quand j'ai ouvert la porte, Guillaume a tiré sur elle, et puis il l'a poussée, elle. Elle est tombée par la porte.
Aurélie semble avoir encore peur.
Mais ensuite, pourquoi avez-vous suivi Guillaume au Cap d'Antibes, puis à Toulouse ?
Il m'a menacé. Il disait « Si tu parles, je te tue. » Si tu refuses de me suivre, je te tue. Heureusement, à Marseille, j'ai réussi à prendre le train pour Toulouse. J'ai retrouvé une troupe de comédiens que je connaissais. J'ai pu continuer mon chemin avec eux et jouer le rôle de Léonide, qui était malade.
Je comprends mieux.
Vous connaissez la suite.
C'est exact.
C'est ainsi qu'Aurélie raconte tout à Raoul. Aurélie, cette demoiselle aux yeux verts, est moins secrète. Mais dit-elle la vérité ? Il ne le sait pas encore. Cela dit, il lui promet de la protéger de Guillaume, de Marescal et de Bréjac, son beau-père.
Ils n'ont pas fini leur conversation quand une jeune fille du pensionnat court annoncer à Aurélie l'arrivée de son beau-père. Bréjac a envoyé un télégramme. Il vient chercher Aurélie. Son grand-père est mort, Bréjac est donc sa seule famille, et il veut que sa fille vive auprès de lui.
Raoul dit à Aurélie « Rentrez avec Bréjac à Paris. Après-demain soir, vendredi, à 21h, sortez, allez à droite dans la rue de Courcelles, à l'angle de la rue Paul Sésame. Je vous attendrai dans une voiture à cheval. Faites-moi confiance, je veux vous protéger. » Soudain, un homme apparaît derrière les buissons. Bréjac, qui est âgé, a-t-il marché jusqu'à la terrasse? Non, bien sûr. C'est Marescal. Le commissaire a suivi Bréjac à Paris et a ainsi retrouvé la trace d'Aurélie. Marescal se dit qu'il va arrêter ces deux bandits, Aurélie et Raoul. Mais il connaît mal Raoul, alias Arsène Lupin. Il a bien entendu parler du célèbre cambrioleur. Il sait qu'il est très doué, mais il ne sait pas que c'est lui.
« Vous voilà !» dit-il, fou de jalousie. « Je vous tiens, toi, la petite meurtrière au visage d'ange. Et toi, le complice, vous ne m'échapperez pas !»
Marescal a toujours été trop fier. Il ne devrait pas. Raoul et Aurélie filent rapidement à travers les arbres. La jeune fille au visage d'ange est agile, comme elle l'a dit. Elle court vite dans cette montagne qu'elle connaît depuis son enfance. Aurélie et Raoul descendent jusqu'au lac, puis ils prennent la barque du pensionnat. Marescal court derrière eux, mais il tombe et se retrouve allongé dans la boue. Il se relève, mouillé de la tête aux pieds. Il ramasse son arme et tire 5 coups en direction d'Aurélie, de Raoul et de leur barque. Et il les rate. Est-il fatigué? L'arme est-elle humide? Il ne sait pas pourquoi aucune balle ne touche Aurélie et Raoul. Mais au milieu du lac, la barque bouge bizarrement. Raoul et Aurélie tombent à l'eau. La barque tourne et disparaît.
« Il se noie !» crie Marescal en colère. « Ce n'est pas possible! Je ne les ai pas touchés! Je voulais juste qu'ils reviennent! Je voulais les arrêter, les conduire au commissaire, les emmener chez le juge! Je ne voulais pas les tuer !»
Dans l'esprit de Marescal, cet accident tragique et inattendu mélange tout. Il est en colère, triste parce qu'il aime encore Aurélie, et il a peur. Il s'éloigne vite du lac sans penser à son costume mouillé et à ses cheveux décoiffés. Il parle tout seul.
« Oh, que faire? Si Bréjac apprend que je suis responsable de cette tragédie, il se vengera. Ce sera la fin de ma carrière. Mais je suis venu seul. Personne ne sait que je suis là. » Eux ne peuvent rien dire parce qu'ils sont morts. Ils sont morts, noyés. Oh, ce n'est pas possible. Que vais-je faire maintenant?
Et il disparaît alors dans la montagne comme il est arrivé.